À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous les auditeurs de Couleur FM sur 97.1 pour cette émission mensuelle à l'écoute de l'Italie. Eh bien, comme d'habitude, on va commencer par l'actualité italienne. Alors, quoi de nouveau en ce moment en Italie ? Depuis quelques semaines, vous avez beaucoup entendu parler d'un certain Renzi, Matteo Renzi, qui est le nouveau président du Conseil italien, ce qui correspond au Premier ministre en France. Alors, qui est-ce Renzi ? Alors, Renzi est un Toscan, il est né à Florence en 1975, en janvier exactement. Il a passé son enfance dans une petite commune, Rignano sul Arno, qui est proche donc de la ville de Florence, et il a fait ses études dans cette ville. Il a étudié le droit, il a brillamment réussi ses études avec une thèse sur l'histoire du droit. Il a eu une enfance marquée par son appartenance au scoutisme. Et puis, à la sortie des études, il a travaillé dans une société de marketing qui était propriété de sa propre famille. Et il en a été d'ailleurs un dirigeant, on va dire éphémère, puisqu'il n'est pas resté longtemps à la tête de cette société. Alors, petite anecdote aussi, quand il avait 19 ans, alors, je ne sais pas si c'est son côté joueur, mais il a participé à l'équivalent de la roue de la fortune en France, et il a gagné un beau pactole, 48 millions de lire à l'époque, alors on ne va pas recalculer, mais déjà pour l'époque en 75, pas en 75, il était né en 75, mais il avait 19 ans, donc en 94, c'était une belle petite somme, voilà. Alors politiquement, puisque s'il est arrivé comme président du Conseil, c'est donc bien qu'il a fait une carrière politique. Politiquement, il a été secrétaire assez jeune du Parti populaire italien. Et il en est devenu en 1999 le secrétaire provincial. Juste un peu avant, en 1996, il avait créé, il était à l'origine des comités de soutien de Romano Prodi en Toscane. Romano Prodi, dont il a toujours été un des grands soutiens. Romano Prodi, qui lui-même a été président du Conseil et était à la tête de l'Europe à une période. Et il a été aussi secrétaire de la Margherita en Toscane, qui était une alliance de partis de gauche, un peu plus tard. De 2004 à 2009, il a été président de la province de Florence, avec, on peut le dire, un vrai suffrage, parce qu'il a eu près de 60% des voix. Et il a été élu à la tête d'une coalition de centre-gauche. Il dit lui-même, en toute modestie, que sa gestion était très bonne, ce qui est à peu près vrai, mais il a quand même eu une enquête qui n'est toujours pas d'ailleurs élucidée par des reports successifs. Une enquête du ministère des Finances sur des frais de représentation injustifiés. Bon, c'est pas non plus des montants faramineux, mais quand même, de 600 000 euros. Et bon, pour le moment, rien n'est confirmé ni infirmé. En 2009, il a été élu maire de Florence, donc il n'avait que 34 ans. Là aussi, il avait 60% des voix. Il a l'air d'être abonné aux 60%. Et il a accédé à l'équipe de direction nationale du parti actuel dans lequel il fait partie, c'est-à-dire le Partito Democratico, qui est, on va dire, une sorte d'équivalent du Parti socialiste français. En 2010, selon les sondages, donc il était encore maire de Florence, il était le maire le plus aimé d'Italie. Et son passage à la mairie a été relativement apprécié. Il a été marqué surtout par ce qu'on a appelé le plan volume zéro. Alors c'était quoi ce plan volume zéro? C'était une première en Italie, c'est-à-dire que il a fait imposer l'impossibilité d'augmenter le volume patrimonial immobilier, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas de la construction pour la construction, et ce qui éventuellement était construit devait en contrepartie, au niveau du volume, occasionner la destruction d'anciens édifices qui n'étaient plus utilisables. Il a aussi développé les voitures électriques dans la ville, les zones piétonnières. Il a pris position contre le nucléaire, pour l'union civile à l'anglaise, en disant qu'un politique n'a pas à soutenir obligatoirement le mariage comme sacrement. Et puis en 2013, il était encore au quatrième rang dans les sondages des maires les plus aimés d'Italie. À partir de 2012, il a commencé à se montrer de plus en plus au niveau national. Et notamment, il a commencé à parler de la vieille classe politique italienne, que ce soit de ses opposants ou de son propre parti. Et puis, il disait, selon une expression italienne qui ressemble à l'expression française, vous savez que quand il y a des primes à la casse pour les voitures, ben en Italie, ça existe aussi. Et il disait que la vieille classe politique, il faut l'envoyer à la casse, mais sans prime, sans prime de départ, donc. Il a participé, il y a eu des élections pour les députés en 2013, et il y a eu des primaires de gauche, et il a été battu par Pierluigi Bersani, qui après d'ailleurs avait refusé le poste de président du Conseil, et il a été battu par Bersani, mais il l'avait soutenu. Fin 2013, il était un de ceux, et sûrement celui qui a le plus œuvré, pour détrôner, on va dire, pour mettre en minorité à l'intérieur du parti, la politique de Enrico Letta, qui était le président du conseil du Parti démocratique. Et donc sa politique ne le satisfaisait pas, et il a demandé à ce qu'il soit mis en minorité. Évidemment, en faisant cette action, il se positionnait comme son successeur, ce qu'il a finalement été, puisqu'il a été validé comme président du Conseil par le président de la République, Giorgio Napolitano, qui lui a confié les clés de ce titre de président du Conseil. Alors, on dit souvent que c'est un homme pressé, on le compare à Blair, le Britannique, certains le comparent à un Berlusconi de gauche. Bon, la comparaison avec Blair est quand même plus justifiée, parce qu'il n'a pas les casseroles de ce cher Silvio. Il est assez fervent, d'ailleurs, des pays, on parlait de Blair, mais des pays anglo-saxons ou scandinaves. C'est quelqu'un de très dynamique, qui a beaucoup d'idées, qui court. Il a la cote auprès des médias, des économistes, même d'une grande partie de la population. Mais il n'a pas non plus que des amis, et surtout dans son propre parti. C'est toujours souvent le même leitmotiv, hein. C'est dans son propre parti que quelquefois on a les pires, sinon ennemis, au moins les gens qui ne nous suivent pas complètement. Et on lui reproche entre autres une rencontre qu'il avait eue avec Berlusconi pour mettre au point une nouvelle loi électorale. Voilà, on va écouter une chanson, puis après on parlera de ses débuts, et de ses débuts comme président du Conseil, et puis de son ministère. Alors on va écouter une chanteuse de sa région, puisqu'on a dit qu'elle était toscan, on va écouter Gianna Nannini. Alors Gianna Nannini est une cantautrice, c'est-à-dire une auteur-compositeur-interprète de Toscane, qui est, on peut le dire, la première femme à réussir dans le rock en langue purement italienne. Elle est née, elle, à Sienne, dans le quartier de Locca. Elle est d'ailleurs très attachée à ses racines. C'est une fille qui est née dans un milieu très favorisé, puisqu'elle est issue d'un monde d'une famille de bonne bourgeoisie, et qui est notamment propriétaire d'une des principales pâtisseries de la ville, qui fabrique le gâteau traditionnel de Sienne qu'on appelle le panforte. Elle est, son nom vous dit peut-être quelque chose en France, parce qu'on l'a entendu quelquefois dans le passé, mais on avait entendu aussi un autre Nannini qui était un pilote automobile à ses côtés chez la marque au cheval cambré et Ferrari, et qui avait eu un grave accident. D'ailleurs, il n'a plus jamais pu piloter ensuite. Et donc, issue d'une famille certes assez aisée, mais elle a étudié la musique au conservatoire, elle a fait du piano, mais elle s'est assez vite démarquée de sa famille et de ce milieu favorable, on va dire. Ensuite, elle a eu des petits soucis puisqu'elle a eu deux doigts coupés, deux phalanges coupées à l'usine par une machine, puisqu'elle avait fait après un autre travail. Et puis, cet incident l'a obligée à arrêter momentanément le piano, mais elle a pu le reprendre après. Après, elle est partie sur Milan et puis elle s'est consacrée complètement à la chanson. Elle a laissé d'ailleurs un mot à ses parents, un mot que je vais vous lire et que vous trouverez dans le cahier récemment sorti de Nini sous la plume de Jean Guichard et qui parle de la chanson italienne d'auteur. Voici ces mots qui illustrent bien le caractère de Gianna Nannini. « Chers parents, je dois partir, ici tout m'est trop étroit et ces habits ne sont pas ceux dans lesquels je me sens bien. » Je ne supporte pas les pleurs ni les adieux. Quand je dois faire ce que j'ai en tête, je le fais. Je ne veux pas m'attacher. Je ne sentirai pas de manque. Maintenant, je compte seulement sur moi-même. Et vous verrez que on ressent ça dans sa musique et dans le morceau que l'on va écouter, qui est issu de son dernier album qui date de fin 2013 et qui s'appelle « Scegli me, choisis-moi ».
Non sai di che morte morire, scegli me, e chissà dove andiamo a finire, scegli me, io lo so. Sai e non riesci a dormire, scegli me. Yeah.
Voilà, alors vous êtes bien sur Couleur FM 97.1. On va donc parler maintenant du gouvernement formé par Matteo Renzi, qui s'est présenté au Sénat et à l'Assemblée pour le vote de confiance. Alors, il a obtenu dans les deux cas cette confiance. Il l'a obtenu non pas très largement au Sénat, mais de façon très large à l'Assemblée. Alors peut-être que les mots qu'il a prononcés au Sénat expliquent peut-être la différence de vote par rapport à l'Assemblée, puisqu'il a fait une allusion à l'âge de beaucoup des sénateurs. Ça n'a pas dû beaucoup plaire. L'Assemblée, par contre, vu que c'est une Assemblée très jeune, la moyenne d'âge de l'Assemblée italienne est vraiment très jeune. Et donc, il a, ce n'est pas la seule raison évidemment, mais il a eu une majorité assez large. Alors, son gouvernement, il a composé un gouvernement restreint, puisqu'il y avait 21 ministres auparavant. Avec l'État, il n'a que 16 ministres, ce qui n'est pas énorme. C'est un des plus petits gouvernements d'ailleurs d'Europe. Je crois que l'Allemagne a 17. Et c'est même le plus petit au niveau des composants, je crois. Alors, ce gouvernement, donc, je le disais, 16 ministres, dont 8 femmes. 8 femmes qui ont des portefeuilles importants, puisqu'il y a Federica Mogherini aux affaires étrangères, il y a Roberta Pinotti à la défense, il y a Federica Guidi au développement économique. Il y a aussi Beatrice Lorenzin à la santé, Stefania Giannini à l'instruction, à l'éducation donc. Il y a au ministère des réformes et des rapports avec le Parlement Maria Elena Boschi. Les rapports aussi avec le Parlement, je l'ai dit. Il y a Mariana Madia. Et qui est chargé des relations avec le domaine public. Et puis aux affaires régionales, Maria Carmela Lanzetta, qui était maire d'une ville de Calabre, donc une dame du Sud, et qui a notamment beaucoup combattu la mafia calabraise, la 'Ndrangheta. Sinon, comme personnage de ce gouvernement, c'est vrai que c'est un gouvernement d'alliance. Il y a sur 16 ministres, évidemment, une grande majorité de ministres de son propre parti, le Parti démocratique. Il y a 3 ministres du Nouveau Centre démocrate, qui est en fait... ce sont les dissidents du parti de Berlusconi qui se sont opposés à lui dans les derniers moments du mandat, et avec notamment Alfano, qui était le vice-président de l'État et qui est ministre de l'Intérieur. Donc il garde le portefeuille du ministère de l'Intérieur, mais il n'est plus vice-président puisqu'il n'y a plus de poste de vice-président. Sinon, que peut-on dire de ce gouvernement, hormis donc ses couleurs? Il y a aussi, j'ai oublié, 2 centristes et puis 2 personnes de la société civile. Et ce gouvernement resserré, alors par exemple Federica Mogherini a 41 ans, c'est très jeune. Elle a une particularité, elle a fait son Erasmus à Aix-en-Provence. Donc je suppose qu'elle parle tout à fait correctement notre langue. Sinon, au développement économique, Federica Guidi est en fait à la tête du groupe Ducati, ce sont les motos italiennes, et elle était vice-présidente de la Confindustria, l'équivalent du MEDEF en France, et elle a renoncé à ses charges de vice-présidente puisqu'elle devient ministre. Sinon, il y a des ministres issus du monde coopératif, comme le ministre des politiques sociales, Giuliano Poletti. Il y a des gens issus de l'enseignement, tout simplement la ministre de l'éducation. À la culture, il y a Dario Franceschini, qui est un écrivain et journaliste. Voilà, alors les débuts de ce gouvernement, il y a du pain sur la planche, c'est pas facile. Il y a l'Europe derrière, qui une nouvelle fois a mis un peu à l'index l'Italie comme elle vient de mettre à l'index la France. Et alors, qu'est-ce que va donner ce dynamisme de Renzi? Est-ce que c'est du vent? Est-ce que c'est du sérieux? Bon, il peut peut-être donner une sorte, faire, enfin, causer une sorte de mobilisation dans le bon sens dans une époque où, comme chez nous, c'est plutôt la morosité qui s'installe, surtout dans les médias. Ses premiers mots ont été de dire qu'il veut instaurer une politique de croissance, mais en s'inspirant de l'expérience des maires, c'est-à-dire du terrain. Il a dit qu'il ferait débloquer rapidement 2 milliards d'euros pour les écoles, mais surtout pour les locaux scolaires. Il a aussi promis dans les 15 jours de faire adopter ce qu'il appelle le plan Jobs Act, c'est-à-dire un plan qui prévoit une allocation pour les précaires de 1 000 euros dès qu'ils ont travaillé 3 mois, alors qu'auparavant c'était 2 ans. Enfin, il aura de toute façon beaucoup de travail sur la planche. Il ne faut pas porter de préjugés. On va voir. Peut-être qu'il réussira. On verra. Alors, il y en a un de ces ministres qui a déjà beaucoup de boulot. C'est Dario Franceschini à la culture, puisqu'il vient déjà d'intervenir à Pompéi, puisque vous savez qu'en Italie, il y a eu beaucoup d'inondations. En Ligurie, mais aussi plus bas, et notamment à Pompéi, donc. Il y a des murs qui viennent de s'effondrer sous la pluie. Bon, Pompéi, malheureusement, est en mauvais état. Ça, c'est le passage du temps, mais aussi de la mauvaise gestion des époques passées, dont on ne va pas reparler, avec aussi la mainmise de la mafia sur certaines interventions. Donc des pans de murs du temple de Vénus, d'une tombe et d'une boutique, on peut dire, qui faisait partie donc de ces ruines de Pompéi, sont écroulés en raison de la pluie il y a quelques jours. Alors le nouveau ministre de la Culture, Dario Franceschini, a convoqué une réunion d'urgence cette semaine pour faire un état des lieux, un état de tous les dommages survenus à la fois récemment et ces derniers mois, et puis de voir comment il pouvait œuvrer sur ce patrimoine mondial de l'humanité, hein, puisqu'il a été classé ainsi depuis 1997 par l'UNESCO. Et il fait aussi l'objet, cette magnifique cité, d'un projet de restauration qui s'appelle Grand Pompéi, qui a été financé en grande partie par l'Union européenne. Mais tout ça avance à pas très lent et Dario Franceschini a promis de prendre à bras le corps ce problème, espérons-le, parce que depuis bien 3 ans, alors là c'est la pluie, mais il y a d'autres pans de murs qui étaient aussi tombés, notamment vers la maison des gladiateurs. Alors l'Union européenne avait accordé une aide de 105 millions d'euros pour ce lancement d'entretien. Espérons que ce site, encore une fois magnifique, qui est issu, vous savez, des fameux tremblements de terre qui a été recouvert par l'éruption du Vésuve le 24 août 79, c'est-à-dire plus de 2000 ans, non pas plus de 2000 ans, mais près de 2000 ans, et qui est l'ensemble le mieux conservé d'une cité romaine. Voilà. Alors on va écouter un morceau de Neapolis, qui est un morceau, qui est un groupe napolitain, et on va l'écouter dans Vola Paloma, c'est-à-dire vol papillon, vol, si tu veux voler, dans tes bras d'or je viendrai me reposer, dans mes bras d'or tu voudrais te reposer, je suis devenu oiseau et dans l'air je resterai, tu es devenu oiseau et dans l'air tu restes, alors je serai chasseur et viendrai te chasser. Tu es chasseur et tu viens me chasser, je suis devenu poisson et dans l'eau je reste. Vola Paloma par l'ensemble Neapolis.
Vola Paloma, vola, vola se vuoi volare, ma passi braccio in oro, ma venga a rapusare. Papà si braccia d'oro e tu pulizza il rapusò, io sono davanti a uccello e nell'aria me ne sto. sia dove andato a cielo e nell'aria te ne stai, mentre da cacciatore ne vengo a cacciare. Da cacciatore mi viene a cacciare, di sua domandata pesce e nell'acqua me ne sto. Tu sia domandata pesce e nell'acqua te ne stai, mentre da piscatore ti vengo a piscare. Tu da piscatore carezza o pisca e addivento un acello e in convento me ne sto. Tu addivento una cella in convento te ne stai, io so già cappuccina e ti vengo a confessare. Tu sei già cappuccina ma pulizza confessare, io so a domandata rosa e in giardino me ne sto. Si addormentata rosa in giardino te ne stai, mentre da giardiniera te vengo a coltivare. Tu da giardiniera mi pulizza coltiva, di sua addormentata morta il cielo me ne sto. Tu si addormentata morta e in cielo te ne stai, ti addovento cielo e là t'aspetterò, ti addovento cielo e là t'aspetterò.
Néapolis. Alors, dans l'actualité récente en Italie, il y a eu aussi le festival de Sanremo qui s'est déroulé du 18 au 22 février et qui en était donc à sa 64e édition. Alors, on va faire un petit historique de ce festival, en fait, qui s'appelle exactement Festival de la chanson italienne de Sanremo. Sanremo, c'est en Ligurie, pas très très loin de la frontière française. Pas très loin de Gênes. C'est un festival de chansons de variété qui a été créé en 1951 sur une idée de Amilcare Rambaldi, qui était un marchand de fleurs, comme beaucoup dans cette région. Et alors, c'est le premier festival de ce type, bien qu'il y ait eu avant quelques tentatives quand même. En 1931, il y avait un festival qui avait fait une tentative sur la chanson napolitaine. En 1936, à Rimini, de l'autre côté, partie nord-est, il y avait eu une tentative de petit festival avec déjà une diffusion à la radio. Excusez-moi, et plusieurs autres, notamment en 1948 à Viareggio. Mais c'est donc en 1951 que fut créé le premier festival pérenne, on va dire. Alors, la première édition, il n'y avait pas grand monde, hein. Il n'y avait que trois interprètes. Mais évidemment, au fil des années, ce nombre a grandi. Et de 1953 à 1971, il y avait un système qui faisait que chaque candidat, chaque chanson présentée, puisqu'on parle beaucoup là de chansons aussi, et autant que d'interprètes, donc chaque chanson avait une double interprétation. fallait qu'elles soient interprétées par deux personnes qui collaboraient a priori. Donc de 1953 à 1971, sauf en 1956 où il y a eu une petite interruption, où là, pas interruption du festival, mais de la double interprétation. De 1981 à 1984, il y a eu des interprétations en anglais, même en français, à ce festival, qui a l'habitude d'inviter des chanteurs étrangers, mais les chansons, normalement, doivent être italiennes. Jusqu'à 1976, la manifestation s'est déroulée au Casino de Sanremo, et puis, à partir de 1977, au Théâtre Ariston, et c'est toujours à ce théâtre-là que se déroule ce festival, avec pourtant une exception en 1990, où là il s'est déroulé au Palafiori, qui est situé dans la banlieue, on va dire, de Sanremo, vers le marché aux fleurs de Busan. Alors le principe du festival, c'est quoi? C'est une compétition entre des interprètes, bien sûr, donc avec des chansons qui ont été présélectionnées et qui ont été validées par une commission. Les morceaux, je le disais, sont en langue italienne ou en dialecte, bien sûr, et ils doivent être composés par des auteurs italiens. Ils seront chantés lors du festival pour la première fois en public sous peine de disqualification, c'est-à-dire que les chansons présentées n'auront pas fait l'objet d'autres récitals avant le festival. Comment sont départagés les finalistes? Ils sont départagés par des jurys spécialisés et puis aussi par le vote populaire, par la télé, puisque c'est une émission qui... le festival est diffusé pendant toute la semaine en direct à la télévision et à la radio. Alors il y a plusieurs prix de décernés. Il y a celui des champions, donc, qui désigne un podium avec un vainqueur et deux médaillés d'argent et de bronze, si on peut dire. Et puis, il y a un prix réservé aux jeunes interprètes et quelques prix spéciaux, et notamment le prix Mia Martini, qui est un prix de la presse. Le festival donc est diffusé en Eurovision et les artistes qui s'y produisent sont accompagnés par un grand orchestre symphonique qui a pas loin de 50 musiciens. Les retransmissions dont on parlait là attirent beaucoup de monde, puisque le record de téléspectateurs date d'il y a quelques années, 2010, avec 12 millions de téléspectateurs. Ça fait rêver beaucoup de gens et de programmateurs de télévision. C'est aussi ce festival qui a inspiré le concours de l'Eurovision, puisque le concours de l'Eurovision a été créé en 1956 sur le même principe, sauf que ce n'est pas un concours national, mais c'est un concours européen avec plusieurs pays. De ce fait, le concours de l'Eurovision en Italie n'a pas attiré grand monde, sauf pendant quelques années, et à tel point qu'il y avait une telle faiblesse d'audience pour le concours de l'Eurovision que les Italiens, pendant plusieurs années, ils ont même renoncé à présenter des candidats. Maintenant, visiblement, ils y retournent de temps en temps. Alors, il y a eu plusieurs vainqueurs célèbres à ce festival. Et le premier vainqueur a été Nila Pizzi, qui était une grande chanteuse en 1951. Mais il y a eu aussi beaucoup d'interprètes qui ont vu leurs chansons ensuite être adaptées à un niveau international. Alors on va écouter un des vainqueurs, celui de l'année 2000. Qui était Piccola Orchestra Avion Travel, dans une chanson qui s'appelle Sentimento. Alors, dans ce groupe, il y avait notamment Ferruccio Spinetti à la contrebasse. Ferruccio Spinetti qui a fondé ensuite le magnifique duo que l'on entend quelquefois en France avec Petra Magoni, qui est une Toscane, elle, à la voix, et qui a fondé ce groupe qui s'appelle Musica Nuda, qu'on entend sur les antennes françaises parfois. Mais là, donc, on va revenir à ce groupe Piccola Orchestra Avion Travel, qui était le vainqueur de l'an 2000 avec la chanson « Sentimento ». Thank you.
c'è il corpo di una bestia acquamarina ed è un incrocio tra il cielo e il fondo. Cosa mai vista si inabissa quando s'alza una donna mia? Questo cos'è? Castellammare, pesce non c'è. Sul mare lucido la nostra barca pesa nel vento il suo nome e sentimento. Stella d'argento, sono contento. Tu m'hai portato nella mano in cima al mondo. Stiamo a vedere quando uscirà con gli occhi cosa ci domanderà.
Alors dans les vainqueurs passés, il y a eu, bon, je ne vais pas tous les citer évidemment, mais il y a eu Claudio Villa, Domenico Modugno, Bobby Solo, Adriano Celentano, Peppino Di Capri, Mattia Bazar, Ramazzotti, Ciro Cinquetti, les Poux, qui est-ce qu'on peut citer encore, Mattia Bazar, je l'ai dit, Francesco Renga, Marco Carta, Roberto Vecchioni, et bien d'autres. Et puis il y a des chansons qui, qu'elles aient eu un prix ou qu'elles aient été bien classées, sont devenues des tubes internationaux, comme je le précisais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple Domenico Modugno, Volare nel blu dipinto di blu. Volare, on l'entend encore dans des tas de versions, même une version manouche récemment. Il y a aussi Una lacrima sul viso de Bobby Solo, qui n'a pas dansé sur cette chanson. Il y a eu Nessuno mi può giudicare de Caterina Caselli, qui avait été repris par Richard Anthony. Il y avait La pioggia di Ciro Cinquetti, L'italiano de Toto Cutugno, Una storia importante de Ramazzotti, etc., etc. Alors, le Sanremo de cette année, il y avait 22 artistes en compétition. Alors, en antenne, et Laurent me disait, puisque je disais que c'est un festival qui avait inspiré l'Eurovision, il me disait, oui, mais en même temps, l'Eurovision, c'est pas d'une grande qualité. Et, ben, malheureusement, Sanremo, ça tourne, disons que le niveau baisse petit à petit. Alors, il y a eu de très bons chanteurs et chansons, il y en a encore parfois, mais noyés dans une masse maintenant de paillettes, de jupes courtes, de corps dénudés, ressemblant à la télévision actuelle, on va dire, quoi. Et puis comme c'est un festival qui est télévisé, donc on peut dire qu'il y a une baisse au niveau de la qualité, mais enfin il y a encore eu 9 millions de téléspectateurs quand même. Alors cette année, donc 22 artistes en compétition, et puis il y a un système d'invités aussi, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas à la compétition, parce que certains ne sont pas chanteurs d'ailleurs, mais que le festival veut honorer. Alors il y a eu Maurizio Crozza, qui est un comique italien de la région, puisqu'il est né à Gênes, qui a fait notamment une imitation de Matteo Renzi, il y a eu Claudia Cardinale, il y a eu Stromae, qu'on entend évidemment avec Formidable en France et qui est venu chanter cette chanson au festival. Luciano Ligabue, qui est un grand chanteur, disons, de rock, auteur-compositeur d'Émilie-Romagne et qui a eu un hommage, qui a lui rendu hommage à Fabrizio De André, mais qui a eu un hommage lui en fin de festival. Il y a eu Paolo Nutini. Paolo Nutini, c'est un chanteur écossais que l'on entend souvent sur les antennes françaises, mais en fait, c'est un chanteur écossais d'origine italienne. Il y a eu Luca Parmitano, ne cherchez pas, il ne chante pas. Excusez-moi, mais l'humidité est là. Donc Luca Parmitano, qui est un astronaute italien. Puis il y a un chanteur irlandais, Damien Reis. Et le vieil auteur-compositeur Gino Paoli, qui est de la région, puisque lui aussi est génois. Et il y a eu la belle Laetitia Casta, qui a montré d'ailleurs beaucoup de ses charmes. Le festival a été marqué en général toutes ces dernières années par des événements médiatiques, on va dire. Et cette année, par exemple, il y a les professeurs de l'orchestre symphonique qui composent la plus grande partie, les professeurs de l'orchestre symphonique de Sanremo, qui composent la plus grande partie de l'orchestre qui accompagne les festivaliers. Et eux n'étaient pas contents. Pourquoi ? Parce que pendant le festival, il y a eu un hommage au grand chef d'orchestre récemment décédé, Claudio Abbado. Et cet hommage a été confié à un très brillant orchestre. C'est l'orchestre de la Fenice de Venise. Mais les locaux auraient bien aimé jouer eux-mêmes, puisqu'ils étaient sur place et puis qu'ils jouaient pendant tout le festival et qu'ils sont de toute façon excellents. À la rigueur, ils auraient accepté que joue ce qui était un peu préconisé, l'orchestre Mozart de Bologne, parce que c'est un orchestre qui a été formé, dont les élèves italiens et étrangers, il y a peut-être des Français dedans, ont été formés justement par le chef d'orchestre Claudio Abbado. Voilà, enfin, un deuxième événement qui a marqué cette soirée, enfin ces soirées, c'était aussi l'hommage que le directeur du festival, Fabio Fazio, a voulu rendre au Club Tenco. Alors le Club Tenco, c'est un festival dont on a parlé ici, qui a aussi lieu à Sanremo, mais qui est une autre dimension, parce qu'il a pour objet une autre démarche, on va dire, c'est-à-dire celle liée à la vraie chanson d'auteur. Alors rappelons que ce festival Tenco, pourquoi déjà il s'appelle Tenco ? Parce qu'il porte le nom de Luigi Tenco, qui était un auteur-compositeur italien et qui est décédé précisément pendant le festival de Sanremo de variété. Il est décédé en se suicidant en 1967 dans un hôtel pendant le festival. À l'époque, il était compagnon de Dalida et à cette époque, la chanson qu'il avait interprétée n'avait pas été qualifiée, il n'avait pas été lui-même qualifié pour la finale et il avait exprimé dans une lettre d'adieu sa tristesse sur le déclin des choix des jurys quant aux heureux élus, on va dire. Alors, à la suite de ce drame, le même qui avait créé le festival de Sanremo, c'est-à-dire M. Rambaldi, il a fondé, avec Enrico De Angelis, ce Club Tenco qui, lui, porte sur la chanson d'auteur et qui, évidemment, a beaucoup moins de moyens financiers, mais pendant toute l'année, sélectionne dans toute l'Italie des nouveaux auteurs certains un peu plus confirmés de chansons italiennes. Depuis plusieurs années, d'ailleurs, ils ont des problèmes financiers janvier. Et ils viennent d'obtenir, pendant le festival, une promesse d'augmentation de financement qui est passée de 70 000 à 100 000 euros. Et ce qui n'est pas énorme hein, par rapport au fonds dont bénéficie l'autre festival. Et ils ont obtenu aussi la possibilité de revenir faire leur Club Tenco à Sanremo parce que ces dernières années, il était hors de la ville. Alors, cette apparition du Club Tenco, des responsables du Club Tenco au festival de Sanremo a fait un petit peu parler en Italie parce que, comme c'est deux conceptions de la chanson différentes, ben, tout le monde n'était pas d'accord. Bon, certains chanteurs ont profité, par contre, programmés au festival pour rendre hommage au Club Tenco, ce qui était plutôt bien. Alors, au palmarès cette année, le grand vainqueur chez les champions est une dame, ce qui est une jeune dame d'une trentaine d'années, qui s'appelle Arisa, et qui a comme nom de scène Arisa, mais son vrai nom c'est Rosalba Pippa, et Arisa, ce sont les initiales des prénoms des membres de sa famille. Elle avait gagné le prix jeune en 2009, donc c'est une continuité, puisqu'elle gagne là avec une chanson qui s'appelle Controvento. Le deuxième est Raffaele Gualazzi avec les Bloody Babuts. Raffaele Gualazzi, vous le connaissez, là il chantait une chanson qui s'appelle Liberi o no. Vous le connaissez parce qu'on l'entend beaucoup sur les antennes françaises dans ses versions jazzy, parce qu'il est pianiste de jazz aussi. Et il a enregistré récemment une chanson dans un album de Camille. Donc lui est arrivé deuxième, et le troisième est Renzo Rubino, avec la chanson Aurora, Renzo Rubino, qui est un habitué du festival. Alors dans les autres prix, il y a eu Rocco Hunt chez les jeunes, alors son vrai nom en fait, Rocco Pagliarulo, qui est de Salerne, mais il a pris comme nom de scène Hunt, parce que c'était le nom avec lequel il signait ses graffitis. Il a 19 ans, c'est un rappeur et il a interprété un morceau qui s'appelle « Nu giorno buono » et c'est ce morceau qui a donc été primé comme prix des jeunes. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait aussi d'autres prix, et notamment un prix à ses côtés qui est le prix Mia Martini de la presse. Et cette année, il a été attribué à Cristiano De André, qui est le fils de Fabrizio De André, qui était le grand auteur-compositeur italien qu'on vous a fait souvent entendre sur Couleur FM. Et Cristiano De André a eu ce prix de la presse avec un morceau qui s'appelle Invisibili, qui est un hommage en fait à son père Fabrizio De André. Il faut dire d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il y avait dans la direction artistique du festival Mauro Pagani, qui lui aussi a beaucoup travaillé avec Fabrizio De André. Alors on va écouter une chanson de Cristiano De André, non pas Invisibili, puisqu'il n'a pas encore été enregistré, mais une chanson tirée d'un album qu'il avait dédié à son père il y a quelques années et qui s'appelle La canzone di Marinella.
Queste di Marinella, la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, è il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna è il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento i baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, ma lui che non ti volle creder morta bussò cent'anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone marinara, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose.
Puisque on est en Ligurie, Laurent, donc au bord de la mer et sur la côte, on va prendre le bateau, alors soit de Gênes, soit de Livourne, tu feras comme tu veux, et on va aller en Sardaigne, et notamment dans la région du centre-est de l'île qui s'appelle l'Oliastra. Alors pourquoi l'Oliastra, pas loin du parc national du Gennargentu? Alors pourquoi l'Oliastra? L'Oliastra, c'est une petite province, c'est la plus petite province d'Italie, puisqu'elle a moins de 60 000 habitants, donc plus petite au niveau de la population, s'entend. Et c'est une région qui est une région depuis 2005 détachée de la province de Nuoro, dont elle faisait partie auparavant. C'est une région de bergers, de villages en pente, accrochés à la montagne, d'oliviers, très touristique, très belle d'ailleurs, avec des beautés comme la Guglia di Gorizie, les cascades de l'Equarci, les canyons. Il y a des très beaux sites de canyons, notamment à Goropu. Et puis, évidemment, tout ça plongeant sur la mer. Donc, région touristique, région de montagne, de mi-montagne. Il y a quelques industries, beaucoup d'agriculture. C'est une région où on mange et on boit bien, d'ailleurs. La grande spécialité, c'est les culurgiones, qui sont des sortes de raviolis très, très bons. Et il y a aussi un vin absolument excellent qui s'appelle le Canonao, qui est exporté dans le monde entier et qui est notamment le Canonao de Gersu, qui est une des communes de cette région. Et c'est là aussi que, vous savez qu'en Sardaigne, il y a beaucoup de moutons, puisque pour 1,8 million habitants, je crois qu'il y a plus de 4 millions de moutons. Mais dans la région de l'Astra, il y a beaucoup de chèvres surtout, puisque pour moins de 60 000 habitants, il y a 50 000 chèvres. Et donc, le fromage de chèvre y est très réputé. Et c'est une des spécialités gastronomiques, des fromages de chèvre, mais aussi des desserts. Il y a aussi une vraie présence musicale des laonedas, ces fameux instruments à faire avec des roseaux. Il y a un très beau carnaval qui ressemble un peu à celui de Mamoyana. Et puis, il y a un phénomène dans quelques communes qui pose question à beaucoup de scientifiques, c'est ce phénomène des anciens et de la longévité. Notamment dans plusieurs villages qui s'appellent Arzana, Villa Grande et puis aussi Perdas de Fogu. Ce sont des villages qui ont beaucoup de gens de plus de 90 ans et voire beaucoup de centenaires. Et c'est un phénomène assez inexpliqué. On essayait de l'expliquer génétiquement. On disait qu'ils ont le même ADN que les habitants de l'époque nouragique, il y a 4000 ans. Les nouragues étaient encore d'ailleurs présents. Et des scientifiques venus du monde entier, parce que visiblement, à part trois petites provinces du Japon, du Costa Rica, de Grèce, c'est la seule province du monde qui a cette caractéristique. Alors, les premiers éléments, les premières conclusions disent « Ah ben oui, mais c'est un village en dénivelé, donc les gens font beaucoup d'efforts, beaucoup de gymnastique, en fait, induite. Les maisons sont en escalier parce qu'elles sont construites étage par étage. La nourriture, alors il n'y a pas d'importation du tout. Ils se nourrissent de leurs propres produits. D'alimentation complètement locale, donc ce sont des circuits courts, hein, mais la nourriture, elle est donc excellente pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux, puisqu'ils nourrissent leurs animaux avec des restes de produits locaux. Et chaque paysan, on peut dire, cultive ses légumes, ses fruits. Là aussi, les cultures, elles sont toutes en terrasse, donc il faut y monter. Le travail physique est important. Alors, c'est une région où vous trouvez beaucoup de vignes, d'oliviers, d'amandiers, de figuiers. Alors qu'on dit souvent que ce qui est excellent, c'est le régime crétois. Avec l'huile d'olive, on devrait d'ailleurs plutôt parler de régime méditerranéen, avec l'huile d'olive et le poisson. Mais les sardes ne sont pas des pêcheurs. Alors, dans la partie ouest, on trouve des crustacés, des poissons, etc. Mais en général, c'est plutôt un peuple de montagne. Et dans l'Oliastre, quand vous leur dites « Mais quel régime vous faites ?»« Ah ben moi, c'est huile d'olive, fromage de chèvre, agneau, porc et... » Le canonau, donc le vin, puis des pâtes, bien sûr, mais surtout tout cela en compagnie des amis, c'est-à-dire qu'il y a une vraie présence collective et de vrais rapports humains de solidarité qui fait que tout le monde entraide tout le monde, donc l'isolement est extrêmement rare et le vivre ensemble est une des raisons principales de ces communes. Et puis il y a le soleil, évidemment, hein, et pas de pollution, les rivières y sont très pures, et donc tout ça fait que le stress n'existe pratiquement pas, et tout ça fait qu'il y a ces quantités incroyables de centenaires, et puisqu'on chiffre quand même à plus de 9% de la population de plus de 90 ans quand même. Et beaucoup de plus de 2500 centenaires, il y a en Sardaigne, mais beaucoup sont situés sur 14 des 23 communes de l'Oliastre. Et puis alors, chose étonnante, il y a aussi l'espérance de vie, elle est la même pour les hommes et pour les femmes. Ce qui n'existe pas. Alors les femmes, elles disent que c'est parce qu'elles bossent beaucoup. Et puis les hommes disent, ah ben les femmes n'ont pas réussi à nous tuer. Enfin bref. Bon, on en a beaucoup parlé sur les antennes. Le magazine Géo aussi y a consacré plusieurs articles. Mais c'est un phénomène assez intéressant et sur lequel on devrait peut-être méditer. Alors l'avenir, par contre, risque de ne pas être le même parce que petit à petit, les jeunes partent. Ils vont trouver du travail ou sur le continent italien ou dans les principales villes de la Sardaigne avec leur repos de l'année de la retraite, etc., etc. Donc tout ça risque de changer un peu. Ben, on va finir cette émission sur 97.1 avec en fond musical du groupe Tazenda, qui est un groupe de cette belle région de la Sardaigne, avec une chanson qui s'appelle Safitza e Sure, La fille et le roi. Au revoir à tous et à tous les auditeurs donc, de Couleur FM.
Fizza e Sure, plena e tristura. In questa terra chi non l'è, in questo mondo chi non intende, fizzo è su sole, fizzo è su re. Pleno de pensamientos, oh eses, y custa vida que no lea, y custo coro que no espera.
setembre s'amanu de surre. Mama è sa luna, femmina è surre, plena de amore, tu esè. Fizza è sa luna.